Nous continuons dans notre série d'études dans 1 Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 5. Nous ne progressons pas très rapidement ces derniers temps parce que les versets sont courts, mais riches de sens. Nous avons déjà vu ce trio de versets où il dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, et rendez grâce en toutes choses. » Et là, c'est un résumé de la vie du chrétien. Et si nous voulons avoir une santé spirituelle, eh bien, il y a cela. Maintenant, il passe à une exhortation, mais qui est plutôt négative, parce que nous sommes quand même des chrétiens qui sont faibles, et parfois, nous laissons aller des choses. Alors là, il dit, n'éteignez pas l'esprit. Hein, c'est au verset 19. 1 Thessaloniciens 5, 19, n'éteignez pas l'esprit. Et là, peut-être, autant nous avons dit que les autres versets semblaient clairs, autant celui-là peut ne pas sembler clair pour celui qui n'a pas pris le temps de méditer. Cette idée de d'éteindre, en général, on pense à une lumière, on pense à un feu. Et peut-être que c'est cette image du feu que le Seigneur emploie là. Et il parle de l'œuvre de l'Esprit comme un feu qui purifie, un feu qui agit, un feu qui accomplit quelque chose. Et quand il nous dit de ne pas éteindre l'Esprit, il nous invite à ne pas étouffer l'œuvre de l'esprit, comme on le ferait sur un brasier pour l'empêcher de flamber. Hein, quand on veut pas que vous avez fait des barbecues, si ça commence à chauffer trop, on essaye d'étouffer un petit peu pour calmer les choses. Mais dans le cas de l'œuvre de l'esprit, il nous dit n'étouffez pas, laissez, si ça flambe, laissez flamber. Et nous ne devons pas empêcher l'Esprit de Dieu d'accomplir son œuvre. Hein, le Saint-Esprit a reçu une mission, hein, Jésus nous l'a promis, il a dit « je vous enverrai le Saint-Esprit » et l'Esprit est là, pas seulement pour notre convenance, mais parce qu'il a une œuvre à accomplir dans nos vies. Et la question que nous voulons poser ce matin, c'est d'abord, c'est quelle est cette œuvre que le Saint-Esprit veut accomplir en nous? Quelle est cette œuvre? Et il y a d'abord celle qu'il accomplit sans notre aide. Hein, il y a une œuvre que l'Esprit fait, où nous n'intervenons pas. Et il y a une autre part où il le fait avec notre volonté, hein, selon notre volonté. Et donc, nous voulons, dans un premier temps, voir ce qu'il fait pour nous et où nous le laissons faire, hein, nous ne pouvons rien. Et puis, il y a un autre aspect où il ne peut pas faire sans nous. Alors, premièrement, voyons cette part qu'il fait indépendamment de notre volonté. Quand je dis indépendamment de notre volonté, je comprends que il y a le moment j'ai fait intervenir ma volonté, c'est quand j'ai compris que Christ est mort sur la croix pour mes péchés et que j'ai dit « je veux que tu me purifies de mes péchés, que tu me sauves, je suis un pécheur ». Là, j'ai fait acte de volonté, mais à ce moment-là, je me suis ouvert à lui et c'est lui qui a commencé à agir, hein, par l'Esprit. Il y a celui qu'on appelle Saint Augustin. Moi, je ne sais pas s'il y a des saints et s'il était plus saint que l'un d'entre nous. En tous les cas, sa vie avant la foi n'était rien à utiliser comme modèle. Dans tous les cas, il est appelé Père de l'Église. Je laisse la chose ainsi. Mais dans son livre La Cité de Dieu, il fait une réflexion concernant la volonté de l'homme, c'est-à-dire que nous appelons le libre arbitre, et la souveraineté de Dieu, aussi appelée la providence. Et il dit, le fait que la souveraineté de Dieu, il souligne le fait que la souveraineté de Dieu n'avait pas lieu d'exister si l'homme n'avait pas la capacité d'exercer sa volonté. C'est-à-dire, Dieu n'aurait pas besoin d'être tout puissant si l'homme n'avait pas une volonté à lui. Donc, où il y a une volonté plus forte qui peut dépasser celle de l'homme. Et donc, ce qui signifie, c'est que l'homme a une volonté. Il y a des mouvements, même dans nos milieux évangéliques, où on veut vraiment... L'homme ne fait que subir toute... depuis le salut jusqu'à la vie, il ne fait que subir, c'est Dieu qui fait tout, et si ce n'est pas fait, c'est... je ne sais pas comment il l'explique, mais là... on peut pas, il faut garder un équilibre entre la souveraineté de Dieu, la toute-puissance de Dieu, et puis aussi cette capacité que Dieu nous a donnée d'exercer de la volonté sur terre, en tous les cas, et pendant notre temps sur terre. Donc il y a des choses qui n'arrivent pas si nous ne le voulons pas, et des choses qui arrivent parce que nous l'avons voulu. Donc il y a une part de l'œuvre de Dieu qui est indépendante de notre volonté. Une fois que j'ai demandé à Dieu de me sauver, une fois que j'ai cru et que j'ai demandé la vie éternelle, c'est un peu comme l'enfant qui naît. Sa naissance, il n'est pour rien, ça se passe et il naît. Bon, après, s'il s'épanouit et il mûrit, il devient un être mûr, un adulte dans son comportement, il aura part à cela. Mais dans sa naissance, il n'est pour rien, il n'accomplit rien et il n'intervient pas. Et la nouvelle naissance, c'est l'œuvre de Dieu. Dans 1 Corinthiens 6, verset 11, et je lis le verset, il dit, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, vous avez été lavés, notez la voix passive, vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, encore la voix passive, mais vous avez été justifiés, encore la voix passive, au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Il a dit, c'est lui qui a fait l'œuvre. Vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, c'est-à-dire consacrés à Dieu, et vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est quelque chose que lui accomplit en nous. C'est une œuvre que lui fait. Et nous savons, c'est dans Jean chapitre 3, il dit, celui qui est né de l'esprit est esprit. Celui qui est né de la chair est chair, et celui qui est né de l'esprit est esprit. Donc c'est une œuvre de l'esprit de Dieu, cette nouvelle naissance. Et c'est lui qui l'accomplit, c'est lui qui le réalise. La nouvelle naissance, c'est l'œuvre de l'esprit. L'esprit fait cela en nous. C'est pour ça que nous pouvons avoir l'assurance du salut. Parce que c'est lui qui le fait. Et quand il le fait, on sait qu'il fait bien. Si ça dépendait de moi, et comme pas mal de religions, ça dépend des bonnes œuvres que je peux accomplir, ma fidélité, ma persévérance, ma souffrance, mes réincarnations, il y a toutes sortes de systèmes qui sont inventés, mais ils sont imparfaits, pourquoi ? Parce qu'ils dépendent de moi. Tandis que là, c'est Dieu, connaissant la faiblesse de l'homme, il a dit, cette partie-là, je veux la garantir, c'est moi qui fais tout. Et le salut, c'est l'œuvre de Dieu du début à la fin. Et c'est l'Esprit de Dieu qui le réalise. Il y a un autre aspect de cette œuvre, c'est le baptême de l'Esprit. Le baptême de l'Esprit est dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Il nous dit que nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons été abreuvés d'un même esprit, d'un seul esprit. Encore une fois, c'est la voie passive. Nous avons été baptisés, ça veut dire, comprenez le mot, c'est dommage que le mot baptisé n'est pas traduit du grec, il est seulement francisé. Parce que le mot baptizo veut dire plonger, immerger, introduit. Comprenons quand il dit, nous avons été en effet immergés, introduits, plongés dans... Et donc, c'est le baptême de l'Esprit, c'est cette œuvre de l'Esprit de Dieu qui nous prend et qui nous introduit dans le corps de Christ. Et nous devenons membres du corps de Christ. Je ne suis pour rien, c'est une chose que je subis. À partir du moment que j'ai donné ma vie, j'ai reçu la vie nouvelle, eh bien, il me prend, il m'introduit dans le corps de Christ. Et c'est un... Et une fois, comme c'est lui qui m'a mis, c'est pas moi qui puis m'extraire. Et c'est son œuvre. Et donc, c'est garanti. Et encore une fois, si je suis dans le corps de Christ, eh bien, alors, je suis sauvé comme le reste du corps de Christ. Hein. Il y a un autre aspect. Vous savez, justement, Jésus nous a promis un autre consolateur, un autre dans le sens de un autre comme moi, un autre consolateur. Et il a dit, il sera avec vous toujours, il demeurera avec vous éternellement. Et le fait de sa présence en nous, eh bien, nous marque, nous scelle. Le fait qu'il soit présent en nous, hein, eh bien, nous sommes à lui. Il nous dit dans Éphésiens chapitre 1, versets 13 et 14, il dit « En lui, vous avez, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés. » Encore la voix passive, c'est lui qui l'a fait. « Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de votre héritage. » pour la rédemption de ceux qui s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc nous avons été scellés, nous a pris, et par la présence de l'Esprit de Dieu en nous, eh bien c'est marqué, nous lui appartenons. Hein? C'est comme quand vous allez dans les magasins, là, et puis ils ont un petit truc qui est attaché aux vêtements, hein, et vous ne pouvez pas partir sans que ça soit enlevé. Tant que c'est accroché là, ça appartient au magasin. Hein? Et c'est seulement après avoir payé que c'est enlevé. Eh bien, Dieu nous dit, voilà, c'est surtout pour que le diable le sache. Il dit, mais tu sais, ceux-là, ils sont à moi. Il y a la marque, il y a la présence du Saint-Esprit. C'est le sceau. Et pour enlever un sceau, il faut être plus puissant que celui qui a mis le sceau. Hein? On ne peut pas... quelqu'un d'autre ne peut pas le faire. Même pas moi, parce que ce n'est pas moi qui ai mis le sceau. C'est Dieu qui nous a scellés. Et donc, la présence du Saint-Esprit est un sceau. Et c'est une marque d'appartenance. Et ça, c'est une chose qui est garantie. Donc, c'est pour assurer que c'est bien fait. Il n'y aura personne qui pourra dire « Oups, j'ai oublié de... » Non, non. Adam et Ève n'étaient pas scellés. Parce que Dieu a voulu leur donner l'opportunité d'exercer leur volonté. Ils l'ont exercé, ils l'ont mal exercé. Ça, c'est un autre problème. Mais maintenant, lorsque j'exerce la volonté de venir à Dieu, je veux dire, Dieu, je te demande pardon pour mes péchés, je te demande de me recevoir, et grâce au sang de Christ sur la croix, il dit, cette fois-ci, je te prends, tu m'appartiens, et je te marque de mon esprit. Et tu es à moi. Et c'est une garantie. Et c'est pas seulement une croix que quelqu'un peut porter pour essayer de dire qu'il est chrétien. C'est pas un tatou. C'est pas non, c'est l'Esprit de Dieu. Hein. Et comme c'est lui qui l'a envoyé, il n'y a que lui pour le retirer. Et lui il dit j'ai payé trop cher pour vous perdre. Et puis après il y a aussi cet aspect de l'adoption. Donc on a vu la nouvelle naissance, on a vu le baptême de l'Esprit, on a vu le sceau ou les arts de l'Esprit. Et puis il y a l'adoption. Et l'adoption, c'est cette capacité, hein, nous qui n'étions pas ses enfants, eh bien, il nous a donné cette capacité de devenir ses enfants. Et tout d'un coup, par un acte, eh bien, nous avons tous les droits d'un enfant devant Dieu. Et quand nous l'appelons Père, c'est pas seulement... parce qu'on aimerait bien qu'il soit notre père, mais c'est parce qu'il est notre père. Il est déjà notre père avant que nous disions Abba la première fois. Il nous dit dans Romains chapitre 8, versets 15 et 16, il dit « Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Hein, » si, quand c'est du fond de mon cœur, je m'adresse à Dieu, je dis « Mon Père ». Et je lui parle comme un fils parle à son père. Et j'espère que nous ne sommes pas des enfants qui parlons à nos pères, c'est toujours « donne-moi, 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 je veux, et fais-moi, et ceci, tout le temps ». Une relation père-fils, c'est une relation d'échange, de partage. C'est une relation avant d'être... c'est cette expression « Père Noël », c'est vraiment une mauvaise expression. Parce qu'il n'est ni père, et il n'a rien à faire avec Noël. Hein? Donc, mais Dieu, dans le ciel, n'est pas... Père Noël, il n'est pas l'assistante sociale chez qui on va quand on a des problèmes. Il n'est pas le dentiste chez qui on va quand on a mal aux dents. Il est le Père, on a une relation avec lui. Et la relation est tout le temps, quand ça va mal, quand ça va bien, il est tout le temps là. Cette relation est intacte, elle doit l'être. Il dit, c'est lui qui nous a adoptés. Galates 4, 6 à 7, il nous dit... il parle aussi du fait que nous pouvons, l'Esprit en nous, nous permet de dire « Abba, Père » et nous encourage. Et donc, à n'importe quel moment, c'est pas parce que j'ai été gentil et obéissant que je peux dire à mon Père « Papa ». C'est parce que je suis né de lui que je peux lui dire « Mon Père ». Et pareillement avec Dieu. Hein, peu importe dans quel état je suis, peu importe jusqu'à où j'ai glissé, j'ai rétrogradé dans ma vie spirituelle, si je suis enfant de Dieu, parce que celui qui n'est pas enfant de Dieu, il ne se sent pas coupable, il n'a aucun problème avec ce qu'il a fait. Tandis que si l'enfant de Dieu, par le fait de cette tristesse, de cette culpabilité, du fait d'être dérangé, eh bien, sait que l'Esprit de Dieu est présent et qu'il agit en lui. Et il n'y a qu'un seul désir, c'est de revenir. Hein, le fils prodigue, c'était cette image extraordinaire du père, du fils qui a voulu oublier le père. Il est parti. Ce n'est pas pour ça qu'il n'était plus fils. Mais il est parti. Mais au loin, il s'est souvenu et dit, « Chez mon père. » Et il y avait une telle notion du père qu'il savait que malgré ce qu'il avait fait, et ce qu'il avait fait c'était terrible, qu'il pourrait rentrer. Hein, il n'a pas fait tout ce trajet de retour, se demandant si jamais il allait être reçu. Non, il savait qu'il serait reçu. Et c'est pour ça qu'il est revenu. Il a dit, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Mais le père n'a pas écouté cela. Il l'a embrassé comme son fils. Hein, donc il y a cette capacité. Et ça, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu en nous. C'est une belle œuvre. Et nous n'avons pas à l'oublier, nous devons nous en souvenir et remercier Dieu constamment pour cela. Il y a une autre part de l'œuvre de l'Esprit où l'Esprit de Dieu agit avec notre volonté, hein, si je veux bien. C'est-à-dire que mon refus de travailler avec lui sur certains domaines de ma vie, eh bien, équivaut à un désir d'éteindre, une extinction de l'œuvre de l'Esprit. Et je disais tout à l'heure, hein, c'est, puisque Jésus l'a envoyé, hein, je ne peux pas le chasser, mais je peux le réduire à une vie de placard, et vous pouvez imaginer qu'il serait bien triste là. Comment est-ce que je peux éteindre l'œuvre de l'Esprit? Eh bien, un premier domaine, c'est par notre instruction. Il a été envoyé pour nous rappeler les paroles de Christ. Maintenant, si moi, je ne lui donne pas l'opportunité de me rappeler, alors il ne peut pas faire son travail. Hein, il a dit, il vous enseignera toutes choses. Mais si je ne l'écoute pas, il ne peut pas m'enseigner. Et donc, il y a un travail qui ne se fait pas. Et il est frustré. Je peux m'opposer et frustrer l'esprit de Dieu, en fait, par une mauvaise interprétation de la parole. Je prends la parole, mais je la fais dire n'importe quoi. Et lui, il sait que ce n'est pas ça. C'est lui-même qui l'a inspiré. Il sait quelle était la pensée du Père. Et il a voulu le communiquer dans le langage que nous pouvons comprendre. Mais si moi, délibérément, je prends ces mots et puis je les transforme en autre chose, vous savez ce que c'est, vous l'avez tous vécu, que quelqu'un a pris une phrase à vous et puis il a fait dire autre chose, comme l'effet que ça a eu chez vous. Alors, vous m'imaginez l'Esprit de Dieu qui dit, mais moi j'ai dit ça, et puis lui il prend ça pour dire autre chose, ou faire autre chose, justifier autre chose. Et alors il dit, mais moi je ne peux pas travailler comme ça, je ne peux pas travailler dans ce sens. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 15, il dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. Efforce-toi, Paul dit à Timothée, ce jeune homme, il dit, efforce-toi de dispenser droitement la parole de vérité. C'est important de prendre la Bible pour ce qu'elle dit. Pas ce qu'on a dit qu'elle dit, pas ce que je pense qu'elle dit, pas ce que j'aimerais qu'elle dise, mais ce qu'elle dit réellement. Hein, la question que je peux me poser, c'est, si Dieu n'a pas dit ce qu'il voulait dire, pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit ce qu'il voulait dire? Répondez à cette question. En attendant, eh bien, je prends la parole de Dieu littéralement. Je dis, je suppose qu'il a dit ce qu'il voulait dire. Qu'est-ce qu'il a dit? Hein, c'est comme ça qu'il faut prendre la parole. Hein, on n'a pas besoin. Certains milieux vous disent, écoutez, n'essayez pas de lire la Bible parce que, à moins d'avoir fait des études et puis d'être un pasteur ou d'être un curé ou d'être quelque chose, vous ne comprenez pas ce que ça dit. Bon, alors pourquoi est-ce qu'il m'a parlé? Hein? Non, c'est pour ça que les enfants de Dieu ont voulu que la Bible soit dans la langue de chacun, pour que chacun l'entende dans sa langue. C'est important, même Pentecôte, il y avait un parler en langue. Dieu aurait pu trouver autre chose, hein. Il aurait pu faire voler les chameaux, hein, pour prouver quelque chose. Mais il a parlé en langue, parce qu'il voulait dire chacun dans sa langue, chacun doit l'entendre dans sa langue. Et il sait combien, il savait déjà combien notre langue maternelle nous parle. Et après, il y a aussi une manière de frustrer l'esprit de Dieu dans son œuvre, c'est de ne pas mettre en pratique la parole. Je l'entends et je ne la mets pas en pratique. En Jacques chapitre 1, verset 21-25, il dit, mais c'est comme celui qui regarde dans un miroir, et puis il voit des choses, puis finalement il ne fait rien, et puis il continue. Je regarde dans le miroir, je vois de la confiture sur la lèvre, mais je ne fais rien, et je pars au travail. Ah, ben, tous les autres vont le voir, en tous les cas. Hein, ce n'est pas parce que je ne vois plus que ça n'existe pas. Mais ne pas mettre en pratique la parole de Dieu. Jésus, dans le sermon sur la montagne, il dit, celui qui entend la parole mais qui ne la met pas en pratique, c'est comme le fou qui bâtit sa maison sur le sable. Ça ne donnera rien. L'Esprit de Dieu ne peut pas faire une œuvre permanente qui glorifie Dieu si je ne mets pas en pratique la parole que je sais. Déjà, mettre en pratique ce que je comprends. Hein, deux petits gamins, ils sortaient de l'école du dimanche et puis l'un dit, y a beaucoup de choses que je ne comprends pas dans la Bible. Et l'autre, il répond et dit, oui, je sais, c'est vrai, mais ce qui me dérange, c'est ce que je comprends. Hein, déjà, mettre en pratique ce que je comprends. Hein, ne vous laissez pas arrêter parce que vous ne comprenez pas, parce que la Bible, c'est un texte qui est là pour tous les niveaux, hein, de la maternelle jusqu'à Bac plus 35. C'est là, c'est le même texte, c'est le même ouvrage. Donc c'est sûr qu'à mon niveau, je comprends certaines choses, et au fur et à mesure que mon niveau augmente, je comprends d'autres choses. Et c'est pour ça que on peut continuer à lire la Bible toute sa vie. Mettre en pratique la parole, et il faut la mettre en pratique. Psaume 119, 11 dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. je sers, j'assère dans mon cœur, c'est-à-dire dans ma mémoire, mais aussi j'assère dans mon cœur, je suis attaché à elle. Elle devient précieuse. Colossiens 3, verset 16, nous dit que la parole de Christ habite en vous abondamment. Si la parole habiter, qu'est-ce que veut dire habiter ? Hein, quand j'habite quelque part, c'est que je circule là, je suis chez moi. J'habite cette maison. Ça veut dire que je peux aller n'importe où dans cette maison. C'est moi qui décide ce qui se passe. Il dit que la parole de Dieu habite en vous. C'est-à-dire que quand elle pénètre, elle rentre chez elle. Elle peut faire ce qu'elle veut. Est-ce qu'elle est libre ? Ou est-ce que la parole de Dieu, je l'entends, je la case dans un petit fichier, et puis, comme dans nos ordinateurs, il y a des fichiers cachés, on ne sait pas où c'est, et puis voilà. Non, non. Et c'est pas la parole de Dieu, on ne la met pas dans le cloud non plus. Hein. C'est dans notre cœur, c'est là, accessible, c'est dans la mémoire vive hein, qu'il faut la mettre. Alors déjà, c'est une question de mon rapport avec la parole de Dieu. Et si je ne réponds pas, si je n'agis pas, l'Esprit de Dieu, ben, il est attaché. Il ne peut pas agir. Dans notre marche quotidienne, Galates 5, 16 à 25, je prends seulement une partie, il nous dit, je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'Esprit, Esprit de Dieu, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous savez, dans les religions, ils vous disent, faites pas ceci, faites pas cela, faites pas ça, faites pas ça, faites pas ça. J'ai souvent eu des personnes qui viennent, ils sont nouveaux, ils disent, qu'est-ce que je dois faire maintenant pour être chrétien? Qu'est-ce que je dois? Je dis, il n'y a rien à faire. Ils disent, mais il n'y a pas, qu'est-ce qui est interdit? Je dis, rien n'est interdit. Ben alors, c'est comment? J'ai dit, non, tu marches, tout ce qu'on dit, c'est marcher selon l'Esprit. L'Esprit de Dieu se sert de la parole, il me parle, et au fur et à mesure qu'il révèle les choses, mets-les en pratique. Et la transformation se fera. Parce que lorsque nous donnons des commandements aux hommes, souvent on commence par ce qui est extérieur. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu fais plus cela. C'est tout la vie extérieure. Tandis que l'Esprit de Dieu, il veut travailler à partir de l'intérieur. Il dit, je transforme le cœur et le reste viendra. Notre communion avec Dieu et avec les frères. Si je n'ai pas les actions de grâce, hein, comme on l'a vu le dimanche dernier, s'il n'y a pas les actions de grâce, eh bien, qu'est-ce qu'il y aura, hein? Romains chapitre 1 nous dit, parce qu'ils n'ont pas reconnu Dieu, parce qu'ils n'ont pas rendu grâce, eh bien alors c'était la dégradation totale. Donc Colossiens 4, 2 nous dit, persévérez dans la prière, priez-y avec action de grâce. Hein, donc celui qui prie toujours, Dieu donne-moi, sauve-moi, délivre-moi, guéris-moi, mais il n'y a jamais du remerciement, il dit, il manque quelque chose là, c'est pas équilibré. Hein. En fait avec Dieu, on dit merci avant de recevoir même, parce que c'est une manière d'exprimer notre foi et notre confiance en lui. Il nous demande de nous décharger sur lui de nos soucis. Hein, 1 Pierre 5, 7 nous dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Mais si je ne décharge pas, et je dis « Je veux me débrouiller tout seul, je veux pas », eh bien, il est bloqué. Il dit « Bon, ben, débrouille-toi tout seul. Hein, » Combien de gens ont dit « Dieu, je ne veux pas de toi, je vais me débrouiller. » Eh bien, bon, débrouille-toi. Hein. Combien de médecins ont dit « Vous auriez dû venir plus tôt. On va faire ce qu'on peut maintenant. » Mais Dieu, combien de fois il nous dit « Tu aurais dû venir plus tôt, mais viens maintenant. On va voir ce qu'on peut faire. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Ça me fait penser à une illustration que j'avais lue. Il y avait un gars qui avait un grand sac à dos, très lourd, très chargé, et puis il arrivait au début d'une côte très longue. Et il y a quelqu'un qui arrive avec une camionnette, Et je ne vais pas dire une 404 bâchée parce que ça vous donnera mon âge. Mais il arrive et il dit, écoutez, monsieur, je vous emmène jusqu'en haut. Vous montez en haut? Oui. Alors il dit, ben, bon, montez, je vous amène. Et le gars, il monte, mais il garde le paquet sur le dos. Et à un moment, le conducteur lui dit, mais monsieur, enlevez le paquet. Il dit, non, mais c'est déjà gentil de me prendre moi, je ne veux pas vous charger de supplément. Il dit, mais monsieur, je l'ai déjà. Mais c'est ça que Dieu dit. Il dit, mais je te porte déjà. Ah, pourquoi est-ce que tu veux porter tes fardeaux et tes soucis en plus? Déjà, je porte tout. Alors repose-toi, détends-toi. En comptant sur lui. Hein, le Saint-Esprit dit, écoute, moi j'ai un plan, je veux le réaliser dans ta vie. Il dit, et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Mais si je ne compte pas sur lui, et qu'est-ce qu'il peut faire pour moi? Donc ne nous opposons pas à cette relation que nous pouvons avoir avec Dieu. Ces services qu'il veut nous apporter, ce soulagement qu'il veut nous donner, ce n'est pas seulement de porter nos péchés, mais il veut nous porter tous nos besoins. Il veut se charger de nous. C'est un père et une mère, et plus que n'importe quel père et mère ont pu faire pour nous. Il veut prendre soin de nous. Il ne veut pas faire de nous des enfants gâtés, c'est-à-dire il fait pas tout pour nous, mais il nous accompagne en tout. Il y a aussi cette victoire sur la chair. Il nous dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Donc la première chose que je comprends, c'est que l'affection de la chair et l'affection de l'esprit, c'est deux choses différentes. Alors si je cours après ce qui est charnel, ce qui est ce monde, les plaisirs de ce monde, les ambitions de ce monde et les promesses de ce monde et tout ça, il dit, ben c'est autre chose que d'accomplir les désirs de l'esprit. C'est deux choses contraires. Alors si tu vas dans ce sens-là, bien sûr que l'Esprit de Dieu, il dit, bon ben, tu ne vas pas dans mon sens, je ne peux pas t'aider. Il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si vous vivez par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps et vous vivrez. C'est à nous de choisir, mais c'est deux choses différentes. On ne peut pas suivre et Dieu et Mammon. On ne peut pas suivre deux chemins en même temps. Hein, sinon, c'est le grand écart. Et puis après, il y a un moment où il faut choisir. Il n'y a pas plus malheureux que celui qui connaît la parole de Dieu, qui a connu le Seigneur et qui vit dans le monde. Parce qu'il n'a même pas le plaisir que les gens du monde ont avec le plaisir du péché, même s'il est passager. Et puis, bien sûr, il y a ce qui ne se fait pas, c'est notre transformation. L'Esprit de Dieu veut nous transformer à l'image de Christ. Mais si je résiste, si j'insiste à faire ce que je veux faire, si je vis notre vie, la transformation s'arrête. Et les choses sont interrompues, il n'y a pas de progrès. Alors après, si je m'étonne qu'il n'y a plus de progrès dans ma vie, je dis, moi, il y avait une époque quand j'ai reçu le Seigneur, c'était tout, alléluia, tout, gloire à Dieu. Et maintenant, ça ne bouge plus. Eh bien, ça ne bouge plus, c'est parce que je ne travaille plus avec lui, hein, c'est tout. Parce que lui, il veut continuer. Lui, il veut. Quand il y a un problème, c'est toujours du côté de l'homme. Hein, c'est jamais du côté de Dieu. Et Dieu ne manque pas à ses engagements, mais nous, mais on ne peut pas le faire aller dans notre sens. Hein, il ne veut pas aller où il ne veut pas aller. Et par exemple, une chose où on oppose, Dieu parfois se sert des épreuves pour nous modeler, pour nous transformer. Hein, parfois, ce sont les difficultés, ce sont les épreuves, qui nous transforment. Mais si je suis de cette théologie où dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut prier, il faut que le Seigneur délivre. Il faut que tout le temps, à tout moment, tout aille bien. Et alors tu bloques l'esprit de Dieu, il ne peut pas travailler. Et en plus, tu l'implores de faire ce qui est contraire à ce qu'il veut faire. Dis-moi, je te fais passer là. C'est sûr que je t'ai promis qu'il n'y aura pas d'épreuve qui sera trop grande et que je n'aurai pas préparé une issue. Je te garantis, mais tu dois passer par là pour l'information. Je dis non, non, Saint-Esprit, je ne veux pas ça, je veux que tu aies guéri, je veux que tout aille bien. Il dit, ben écoute, je ne peux rien, le travail, on ne fera pas de progrès. L'œuvre de Dieu, l'Esprit de Dieu, je ne lui fais confiance, je le laisse faire. Il me dit, peu importe par où tu me fais passer. Le frère Fabien, là, il a des problèmes dans le dos, là. Il va voir un thérapeute et il sort, il a plus mal que quand il est rentré. Ben après, c'est à lui de réfléchir s'il va retourner ou pas. Ou je fais confiance, je dis, le gars, il m'a fait ça, mais c'est pour que ça aille mieux. Ou bien, il veut me torturer et je ne retourne plus. Et là, c'est une question de volonté. Hein, et là, c'est pareil. Et avec Dieu, c'est encore plus vrai. Je fais confiance à Dieu. Dieu, non, je sais que tu ne cherches pas à me torturer, me faire souffrir, parce qu'on n'a pas besoin de souffrir pour purger de nos péchés. Ça n'existe pas, il n'y a pas de purgatoire ni sur terre, ni après la mort. C'est le sang de Christ qui nous purifie de tout péché. Alors, bien sûr, cette parole, c'est « n'éteignez pas l'Esprit de Dieu ». La question, c'est pourquoi voudrait-on éteindre l'Esprit ? Pourquoi voudrions-nous éteindre l'Esprit ? Pourquoi faire quelque chose qui l'empêche de faire son œuvre, alors qu'il veut accomplir une bonne œuvre ? Eh bien, premièrement, s'il nous dit de ne pas éteindre l'Esprit, c'est possible, hein, première chose. S'il nous dit de ne pas le faire, c'est que c'est possible de le faire. Mais le perdant, c'est nous. L'apôtre Paul, quand il écrit aux Éphésiens, il leur dit « N'attristez pas l'Esprit de Dieu qui est en vous, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Il vous scelle, il est présent, mais ne l'attristez pas. Premièrement, quand il nous dit de ne pas attrister, il est en train de nous dire que l'Esprit de Dieu, c'est une personne et pas une force. Hein ? Si vous avez eu affaire avec les témoins de Jéhovah, ils ont dit que c'est une force, pas une personne. Si je peux l'attrister, c'est qu'une personne. Vous n'avez jamais attristé votre frigo. Hein ? Même si vous allez souvent le voir et puis vous lui faites des sourires. Vous ne pouvez pas l'attrister. C'est le Saint-Esprit, on peut l'attrister, c'est une personne. Si vous avez été élevé dans les milieux catholiques, eh bien, vous dites, ouais, bah, le seul moment où j'ai entendu parler du Saint-Esprit, c'est quand le prêtre a dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais sinon, j'en sais pas plus sur ce qu'il fait. Eh oui, mais parce que c'est l'Église qui a voulu faire l'œuvre de l'Esprit. Mais la Bible nous parle de l'Esprit qui fait son œuvre. Il dit, laisse-le faire. C'est pas à toi de lui dire ce qu'il doit faire. C'est à toi de le faire. Laissez faire. Travailler avec lui. Pourquoi l'attrister ? Il recherche notre bien, il désire accomplir la mission pour laquelle il a été envoyé. Comment voulons-nous qu'il réagisse s'il rencontre de l'opposition de notre part ? Hein ? Si moi je le freine, je le bloque, je résiste, j'ai pas envie, vous savez... Vous pouvez avoir un instit, le meilleur des instituteurs, et vous lui donnez un élève qui refuse de faire quoi que ce soit, l'instit ne peut pas montrer ses capacités et l'enfant ne peut pas s'épanouir. Il faut que l'élève se confie à cet instituteur et qu'il le suive. Supposons que vous avez signé un contrat avec un coach dans une salle de sport. Vous lui dites, voilà, je ne veux pas ressembler à M. Barnes avec du ventre, donc je voudrais que vous... Il dit, d'accord, on va travailler. Et puis finalement, on a signé le contrat, on s'est serré la main et tout. Et après, il apprend qu'on ne vient plus aux sessions de travail. on n'est plus là. Et en plus, il apprend que oh, est en train de faire la Java ailleurs, en train de faire manger de tout. Et puis, il dit, mais ça va pas. Je croyais qu'on avait signé un contrat et qu'il avait vraiment l'intention. Et maintenant, il n'y a rien du tout. Hein, et tout ce qu'il veut, c'est dire aux gens, il dit à tout le monde, moi j'ai un contrat salle de sport là, voilà, je suis inscrit. Mais tu es inscrit, pourquoi ? Hein ? Et si c'est comme ça qu'on voit la vie chrétienne, eh bien alors ne dites pas que je suis inscrit, je fais partie d'une telle église, je vais à une telle communauté, c'est pas la peine de le dire. Dites pas que vous êtes dans cette salle de sport. Faites ce que vous avez envie de faire, vous avez le droit. Hein ? Dieu donne la liberté de faire ce qu'on veut. Mais ne disons pas qu'on appartient à une telle salle de sport, c'est-à-dire, je parle de l'église, et puis le coach, on ne l'écoute pas. Le coach, c'est l'Esprit de Dieu. Et si je ne l'écoute pas, et si je ne fais pas, et c'est sûr que parfois je vais sortir de là, je vais avoir mal de partout, mais ce n'est pas grave, il est en train de faire une bonne œuvre. Il dit, n'éteignez pas l'esprit, ne le frustrez pas, ne l'attristez pas. Et si j'ai une autre, si j'ai une autre vie en dehors de l'Église, hein, si on ne veut pas employer l'expression de double vie, mais si j'ai le dimanche je suis ceci et là en semaine je suis autre chose, s'il y a une partie de ma vie que je garde cachée, je ne veux pas que les gens en sachent, et puis s'il y a une autre partie où à l'Église je peux être très bonne chose, eh bien. C'est pas bon. Déjà, si je suis enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu est attristé. Et à force d'être attristé, finalement, eh bien, son œuvre est éteinte. Et on ne voit plus sa présence. Et je ressemble à un inconverti. Hein. Et beaucoup de gens qui ont connu le Seigneur, par négligence, par abandon, eh bien, ils ressemblent tout à fait à des inconvertis. Et personnellement. Si on se comporte comme un inconverti, je le traite contre un inconverti. Mais après, il y a ce mauvais témoignage, d'abord auprès de nos enfants. Hein, si on a des enfants dans la maison, ben, ils savent. Hein, ils savent si c'est du vrai et si c'est il y a deux vitesses. Eux, ils le savent, même s'ils ne disent rien, ils comprennent. Hein. Nos enfants sont plus intelligents qu'ils ne paraissent parfois. Et puis, après, il y a les gens du monde avec qui on part. Hein. Ils savent qu'on va à l'église et puis ils voient qu'on est là avec eux. Ils disent rien, mais dans leur tête, ils disent, mais c'est n'importe quoi, ça. C'est pas un chrétien. Je vois comme ça, il fait la même chose avec nous. Et puis après, il dit qu'il est à l'église. Et combien de gens se sont détournés de Dieu à cause de la vie des chrétiens. Les gens qui se disent, il vaut mieux dire, pas dire qu'on est chrétien, pas dire... Au moins comme ça, on ne salit pas le nom de Dieu. Paul parlait, il dit, à cause de vous, le nom de Christ est blasphémé, parlant aux Juifs. Mais un jour, je parlais avec un musulman qui avait fréquenté pas mal de chrétiens, chrétiens entre guillemets, hein. Dieu seul sait si c'était vrai ou pas, mais lui, il m'a dit, mais tout ça, c'est des chrétiens en carton, ça. Voulant dire que c'est pas du vrai, ça ressemble, ça, mais il n'y a rien derrière. Il disait que c'est des chrétiens en carton. Et je le connais encore, et il n'est pas venu à Christ encore. Hein. Avec un tel témoignage, il risque pas. À moins de vraiment rencontrer Christ et de le voir sans le voir au travers des chrétiens. Mais nous devons vivre une vie saine, pure, laisser agir l'Esprit, qui fasse sa transformation. Il y a beaucoup de travail à faire. Nous ne nous rendons même pas compte. Dieu, dans sa grâce, a tout pourvu pour garantir notre salut. Heureusement, parce que nous faisons les choses tellement imparfaitement. Il n'y en a pas un d'entre nous qui sera au ciel, si ça dépendait de quoi que ce soit de notre part. Il n'y en a pas un qui serait sauvé, même si Christ est mort sur la croix. C'est heureusement que lui, il a tout pris en main pour ce qui est de notre salut. Mais après notre salut, après il nous dit, maintenant, c'est à toi d'intervenir, je travaille avec toi, et j'agis avec toi, et ça s'appelle autrement, ça s'appelle la sanctification. C'est-à-dire, c'est cette œuvre de transformation qu'il fait où nous devenons à l'image de Christ. Et là, nous allons, si nous sommes vraiment transformés à l'image de Christ, eh bien, je vais parler plus comme Christ, je vais réagir comme Christ, je vais vouloir ce que Christ veut, je vais penser comme Christ. Alors, il suffit de bien se regarder dans le miroir et dire, mais où est-ce que j'en suis ? Est-ce que ma vie vraiment ressemble à Christ ? Est-ce que quand les gens me voient, ça fait penser à Christ ? Hein, les pharisiens de Jérusalem, ils ont vu les disciples, ils ont vu qu'ils étaient galiléens, mais plus que cela, c'était parce que leur accent, ils les dénonçaient, mais ils ont dit, mais ils prirent connaissance qu'ils avaient été avec Jésus. Ils disent, ce n'est pas seulement que des galiléens, mais ils parlent comme Jésus. Ils répondent comme Jésus. Et ils ont une conviction qu'ils ont eue quelque part comme Jésus l'avait. Et est-ce que nous avons cela ? Et c'est là seulement que Dieu est glorifié. Et c'est ça que notre ville ici a besoin. C'est des chrétiens qui marchent. Et quand quelqu'un vient et met les pieds ici, eh bien, il sait qu'il a mis les pieds chez des enfants de Dieu. Et pas seulement ceux qui prétendent être enfants de Dieu. Et bien sûr, nous ne sommes pas à la perfection. Sinon, l'Esprit de Dieu, il aurait fini. Mais il y a de la marge entre ce que nous sommes et la perfection. Il y a du travail à faire. Et où est-ce que j'en suis dans ce travail ? Hein, ça ne suffit pas même d'avoir été baptisé. Parce que le baptême, c'est un témoignage, c'est mon témoignage de mon appartenance à Dieu. Mais ce qui transforme ma vie, c'est l'œuvre de l'Esprit en moi. Et si je travaille avec lui. Et donc, peu importe où j'en suis, peu importe ce que j'ai pu vivre jusque-là, je peux toujours revenir et dire, Dieu, voilà, je regrette, je te demande pardon, je te demande de pardonner mon péché, mes égarements, mon éloignement, mais n'importe quoi. Et je veux, dorénavant, je veux vivre pour toi et personne d'autre. Et je veux que ceux qui me voient puissent voir que je t'appartiens. Vous savez, quand vous rencontrez quelqu'un qui dit, vous savez, je ne suis pas menteur, hein, moi je dis toujours la vérité. Celui-là, parce qu'il l'a dit, vous savez que c'est un menteur. Parce que ceux qui disent vrai n'ont pas besoin de certifier. Et celui qui est obligé de dire, vous savez, je suis chrétien, moi j'appartiens à telle église, tout ça. Écoute, laisse-moi voir. C'est moi qui décidera si tu es chrétien. Et les gens du monde ont une meilleure idée que souvent les chrétiens de ce que devrait être un chrétien. Et quelqu'un m'a demandé, tout à l'heure j'ai dit, il y a parfois, il me demande, il dit, comment la vie chrétienne, comment on la vit ? J'ai dit, écoute, va trouver un inconverti, demande-lui comment un chrétien devrait être converti. Commence avec ça. Déjà, ce ne sera pas simple. Parce que eux, combien de fois ils vous ont dit, ah, t'es chrétien et puis tu t'es mis en colère. Eux, ils ont le droit de se mettre en colère, ils insultent, ils font de tout. Ils disent, ah, tu t'es mis en colère, ah bon, tu croyais que tu étais chrétien. Ou bien ils disent, t'es chrétien en plus et tu fais ça. Ils le disent, ils le savent. Eux, ils font pire. Ils vont nous le reprocher. Ils savent comment un chrétien doit vivre. Hein, donc, soyons honnêtes. Reconnaissons notre faiblesse. Mais n'éteignons pas l'Esprit de Dieu. Laissons-le faire son œuvre de transformation en nous, à la gloire de Jésus-Christ. Après tout ce qu'il a fait pour moi, c'est la moindre des choses que je peux faire pour lui. Que le Seigneur nous aide. Si vous n'êtes pas encore enfant de Dieu, vous n'êtes pas sûr d'être enfant de Dieu, eh bien il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est d'aller s'adresser à lui. Pas le pasteur. Le pasteur, il peut vous accompagner si vous voulez. Mais c'est vraiment lui qu'il faut voir. Jésus-Christ. Vous lui parlez. Puisqu'il entend toutes les bêtises que vous dites, pourquoi est-ce qu'il n'entendrait pas quand vous dites « Père, pardonne-moi mon péché, sauve-moi, je comprends que tu es mort sur la croix pour moi et je veux recevoir ce que tu m'as donné, ce que tu as pourvu, je veux vivre pour toi. » Et il a promis de répondre et il le fera. Prions. Père Céleste, encore une fois, nous sommes reconnaissants à toi pour ta parole, nous sommes reconnaissants à toi pour tout ce que tu nous apportes et nous avons dit beaucoup de choses, Seigneur, et chacune de ces phrases contiennent toute une œuvre de l'Esprit. Et Père, nous te prions de nous aider à nous regarder vraiment dans le miroir de la parole et voir ce qui en est. C'est parce que nous pensons, comment nous voulons être perçus, c'est ce qui en est réellement. Et toi, tu sais, nous savons, ceux qui vivent avec nous savent, ceux qui nous fréquentent savent beaucoup de choses. Et Père, nous te prions de nous aider à vivre pour toi. Et que ici, on peut voir une église s'établir, où c'est un corps qui ressemble à ton corps, qui est digne de porter ton nom. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Je vous propose un cantique, le 220. Viens à me perdu, viens à ton sauveur. On peut être perdu dans le sens qu'on n'a jamais été sauvé, mais aussi on peut être une âme perdue dans le sens qu'on s'est égaré du Seigneur, comme le fils prodigue s'est éloigné de son père et on a besoin de revenir. 220. Viens à la croix, âme perdue, brebis sans berger, tu verras sa main tendue pour te sauver. 220.